France Info. France Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils voltigent un peu au grand barnum de l'actualité. Les informés de France Info bientôt dans votre ville, hein, ils se sont accrochés à la caravane. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent l'éditorialiste au journal britannique The Telegraph, Anne-Elisabeth Moutet, bonsoir. Également, Étienne Girard de Marianne, bonsoir.
Bonsoir.
Anne-Sophie Beauvais, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice de l'association des anciens de Sciences Po et vous venez de sortir un livre dont on parlera tout à l'heure, dont je vais bien sûr reprendre le titre dans un instant. C'est On s'était dit rendez-vous dans 20 ans justement à propos de Sciences Po et une personne particulière, voilà, dont on parle beaucoup en ce moment, qui était présente, et également le journaliste européen Alexis Poulain. Et ce soir, nous parlerons de l'Europe, la marche de Macron, SNCF, ça passe au dur. Mais juste avant, on va écouter un tout petit peu de musique.
La nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse. Saisie d'une sainte frousse, tout le corps.
Et voilà, un équilibriste est tombé. Aujourd'hui, Jacques Higelin est décédé ce matin à Paris à l'âge de 77 ans. Une vingtaine d'albums, des chansons pas comme les autres, parfois étranges, dérangeantes, mais toujours sonnantes. Pour en parler, nous recevons Yves Bigot. Bonsoir. Alors, vous êtes président de TV5 Monde, spécialiste musique également. Alors, j'ai juste une question au début. Dans votre livre sur la chanson française, Je t'aime, moi non plus, vous mettez Higelin dans la catégorie des rebelles. Pourquoi vous le mettez dans cette catégorie-là, Jacques Higelin ?
Ah ben, ça serait difficile de ne pas l'y mettre.
Ouais, pourquoi pour vous, il est rebelle, Jacques Higelin ?
Ben déjà, il a dynamité à deux reprises la chanson française. Une première fois, tout de suite après mai 68, dont il incarne d'une certaine façon l'esprit, quand chez Sarava avec Brigitte Fontaine et Areski Belkacem, il a en fait fait en sorte de sortir de la chanson française narrative telle qu'elle existait depuis toujours, avec ses qualités formidables, héritées de notre poésie et de notre littérature. Lui, d'un seul coup, il a amené là-dedans du surréalisme, du coq à l'âne, du un peu n'importe quoi, mais toujours inspiré.
Ouais.
Et surtout son délire intérieur et son délire personnel, ses capacités d'improvisation. Donc ça, c'est une première fois, début des années 70. Et une deuxième fois, alors en 75, quelques années plus tard, quand il décide de devenir rock, et où, avec trois albums d'affilée, BBH 75, Irradié, Alerter les bébés, d'un seul coup, il donne vie et corps à un rock français totalement débridé, très noir,
ouais, hein, bien sûr, ouais.
En même temps. Alors lui en cuir, et puis en plus il se produisait dans des endroits, des maisons des jeunes, et de la culture, des fêtes politiques, des endroits où ce qui se terminait souvent en baston, etc.
Je veux dire, c'était, voilà. Ouais, d'accord. Hein, c'était... Oui. Non, mais c'est marrant parce que quand on le voit sur ces derniers jours, Jacques Higelin, on n'imagine pas qu'à un moment ça ait pu provoquer ça. Justement, cette tension qu'il pouvait y avoir aussi dans les concerts.
Mais bien sûr, à l'époque, il était inspiré par Bob Dylan, par les Rolling Stones, par Iggy Pop, etc. Et puis, c'est un mec de scène. Mais donc, voilà, un rebelle parce qu'il n'adhère en fait à aucune convention. Ce qui est très intéressant et paradoxal, puisqu'il vient de l'ancien monde,
oui, bien
justement,
sûr.
D'avant mai 68. C'est un fan de Maurice Chevalier et de Charles Trenet. Il vient du monde du jazz, du cinéma, du théâtre. Il a chanté Boris Vian, hein,
ouais,
à tous ses
sûr,
débuts,
ouais.
Donc il a été découvert par Jacques Canetti. Donc, voilà, ouais. C'est un paradoxe, mais il brise toutes les conventions, et alors jusqu'à l'extrême, jusqu'à la transgression. Parce que sur scène, moi je l'ai vu au
c'est
Festival
ça, ça
de
pouvait Montreux. Durer 3-4 heures, hein, d'ailleurs, ces concerts étaient sans fin.
Ah oui, c'est, ça on savait jamais, on savait quand ça commençait, on savait jamais quand ça allait finir, et ça valait pour chacun de ces morceaux. Et
une chose Yves Bigot, il y a quand même une chose, c'est que c'était un chanteur populaire, mais tout de même avec quelque chose d'étrange en lui, parce qu'il y avait une tension, et c'est vrai quand on l'interviewait, pour l'avoir également interviewé, il y avait une tension, on ne savait pas si ça pouvait partir ou vous embrasser, en fait. C'est ça qui était assez étonnant, je trouve, avec Jacques Higelin. Est-ce qu'il était, à votre avis, véritablement comme ça? Il jouait un rôle ou pas?
J'ai pas l'impression qu'il jouait un rôle, tellement ça lui venait naturellement, je veux dire, c'était ça. Mais il y avait effectivement quelque chose de très théâtral
oui.
En lui. Il pouvait faire peur, justement, Hein,
c'est parfois, vrai, tout à fait. Oui, bien sûr, il est impressionnant. Oui.
Parce qu'on ne savait pas ce qui allait se passer. Et en même temps, c'est paradoxal, parce que c'était vraiment un mec d'une générosité absolument incroyable, extrêmement sympathique, extraordinairement humain, allant vers les autres, totalement en dehors du showbiz, hein, justement. Donc là aussi, hein, rebelle, parce qu'il procédait de l'underground et de la contre-culture. Parce que vous dites très populaire. Bah, très populaire, connu de tout le monde.
Son nom est connu, voilà, en fait.
Voilà, et avec quelques tubes, hein, tombés du ciel, part, etc. Mais il n'avait pas 50 tubes non plus. Il continuait d'appartenir à ce monde dont il venait, qui était le monde de l'underground français des années 60.
Alors, juste au départ, Anne-Sophie Beauvais, ça vous parle, Jacques Higelin?
Non, moi, ça me parle pas beaucoup, mais de manière très spontanée, c'est peut-être pas tout à fait ma génération, mais c'est le côté presque paradoxal de la mort et de la disparition. Ça permet justement de redécouvrir, en fait, souvent des personnages, des parcours. Moi, j'ai relu aujourd'hui la biographie de Jacques Higelin. Je connaissais pas toute son histoire. Et voilà, au moment de disparition, on réentend des morceaux, on redécouvre un petit peu des chanteurs.
Anne-Elisabeth Moutet, ça vous parle, vous, Jacques
Higelin? Alors, ça me parle un peu, mais vous avez cité un nom qui me paraît très important et qu'il faut rappeler, c'est celui de Jacques Canetti.
Bien sûr.
Le frère d'Elias Canetti, d'ailleurs, qui est le grand producteur de chansons françaises avec des passerelles partout. Ça va de Georges Moustaki à Serge Reggiani et quelqu'un comme Higelin. Gainsbourg aussi. Et il se passe dans les années 50, 60, 70 quelque chose de fantastique dans la création en France. Et ça, c'est quelque chose qu'on a aussi beaucoup perdu.
Une chose, Isbigo, juste pour terminer, alors c'est la fameuse question, est-ce que pour vous, il y a des héritiers ou ça reste un moment bien particulier de la vie de la chanson française, Jacques Higelin?
Il n'y a pas d'héritier d'abord possible. Alors, en dehors de ses enfants, hein, Isia, Arthur H, etc.
Mais même si Isia est très rock par rapport à lui.
Oui, bien sûr, beaucoup plus. Ouais, hein, ouais. Il fait quasiment du métal. Hein, mais. Non, parce que c'est une personnalité tellement singulière. Son style, c'est lui-même. C'est rien d'autre. Et puis l'époque a changé. Aujourd'hui, on n'a pas la liberté. Il était libertaire, hein, Jacques Higelin. On n'a plus la liberté aujourd'hui qui a permis à quelqu'un comme Jacques Higelin d'exister, d'éclore et de se développer. C'est-à-dire que même quelqu'un qui arriverait aujourd'hui avec la même personnalité débordante, comme ça, et délirante, on voit pas comment il pourrait se développer comme Higelin l'était devenu.
Allez, juste avant de revenir à l'actualité brute, justement un peu de légèreté, on se réécoute.
Et je crie, et je pleure, et je ris au pied d'une fleur des champs, égaré, insouciant, dans l'âme du printemps, cœur battant.
Voilà, ça fait toujours du bien, voilà, commencer une émission ainsi. Merci beaucoup, Isbigo, d'être venu nous parler de Jacques Higelin. À très vite aux informés de France Info. L'info à 20h10, justement, c'est Noémie Bonin.
Nordal-Lelandais se dévoile peu à peu. On sait ce soir que, selon lui, la mort de la petite Maëlys est due à une gifle donnée dans la voiture alors que l'enfant s'agitait et criait pendant le fameux mariage à Pont-de-Beauvoisin. On en sait plus également sur le décès du militaire Arthur Noyer. Là-dessus, Lelandais parle d'une bagarre, puis d'une chute mortelle. Dialogue toujours au point mort entre les syndicats de la SNCF et le gouvernement. La nouvelle réunion d'aujourd'hui n'a rien donné. En sortant, la CGT a affirmé que la mobilisation pourra être encore plus forte ce lundi. L'UNSA se dit très inquiète et agacée par la tournure des échanges. Pendant ce temps, Air France se prépare à une nouvelle grève demain avec 30% des vols annulés. C'est le taux le plus fort depuis le début de ce mouvement pour une augmentation de salaire. Cinquième journée de grève qui coïncide avec le début des vacances scolaires pour la zone A. Un nouveau vendredi noir à Gaza. 7 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne. Plus de 400 blessés pendant un rassemblement à la frontière de plusieurs milliers de personnes. Depuis la semaine dernière, en tout, 27 Palestiniens sont morts. Un partout entre la France et l'Italie en quart de finale de Coupe Davis de tennis. Fabio Fognini a maîtrisé Jérémy Chardy tout à l'heure 3-7-1. Il remet donc son pays à niveau après la victoire cet après-midi de Lucas Pouille. Place désormais au double demain à partir de 14h.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Alors, depuis le mouvement social à la SNCF cette semaine, nos habitudes ont changé. Faut bien le dire, hein. Avant, quand quelqu'un prenait le train, c'était d'une banalité. Depuis cette semaine, quand vous croisez une personne ayant voyagé en train, la première phrase que vous lui dites, c'est « Alors, ça s'est bien passé? Est-ce que tu veux du sucre? Vite, dis-moi !» Un Paris-Marseille en TGV, c'est une expérience immersive dans les interrogations sociales de notre époque. Dimanche et lundi, nouvelle journée d'action avec, selon le porte-parole de la SNCF, 20% des trains qui circuleront en France. Hier, la réunion entre Elisabeth Borne, la ministre des Transports et les syndicats n'a pas été des plus fructueuses. Certaines organisations ont même déclaré que c'était une perte de temps. Alors, tout est relatif, hein, puisqu'on peut se demander quand on considère qu'on a perdu du temps avec une réunion qui a duré 6 heures. Hein, voilà, le blocage est acté entre les syndicats et la ministre. Et en fait, tout dépend, vous allez entendre, d'où on se place, selon le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux.
Ce qu'il est important, d'abord, c'est de travailler à discuter et à pouvoir faire avancer les sujets. Ça a été le cas hier, il y a eu des discussions longues qui se sont tenues. On a pu inscrire la semaine dernière et déposer le gouvernement. Permettez-moi, vous pouvez être...
Les syndicats sont sortis en disant 5 heures de discussion,
on n'a pas eu une avancée. Un syndicat est sorti en disant cela. On ne peut pas sortir de 7 heures de discussion sans que rien n'ait avancé, ça n'est pas exact.
Bon, alors ce n'est pas exact ou pas, on ne sait pas, Benjamin Griveaux sur RTL, Alexis Poulain, il y a deux versions, hein, on le voit en effet, on voit que le bras de fer quand même est acté, véritablement. Ouais,
là, ça va être long, comme une réunion de 6 heures, comme l'a dit la ministre Elisabeth Borne, pénible et douloureux.
Ouais.
Parce que ça, ce conflit, en fait, il va dépasser de loin l'idée du train, en fait, ces deux visions irréconciliables de est-ce qu'un service public doit être un service public ou bien est-ce qu'on doit... faire le tout marchand et faire confiance au marché. Et là, c'est vraiment... on va rejouer la droite et la gauche, pour le coup. Donc, ni droite ni gauche, c'est impossible dans ce cas-là. Et d'ailleurs, il y avait un sondage où les gens se rendent compte qu'En Marche est un parti de droite.
C'est ça, on va en parler, exactement. Oui, c'est ça, voilà.
Et oui, parce que là, c'est un point d'achoppement absolu entre la façon de voir la construction de la société. Et ce qui peut être inquiétant, c'est que de part et d'autre, on a deux visions idéologiques. N'en déplaise aux marcheurs, ça reste une idéologie de croire que le marché est bénéfique pour le consommateur. Ça peut l'être dans certains cas, pas systématiquement. Donc, il y a matière à débat et vouloir se mettre d'accord, ça va prendre effectivement beaucoup de temps.
Étienne Girard, une chose, quand on voit ça justement, c'est une grève aujourd'hui de plus en plus pour le service public plutôt que pour les cheminots qui est en train de se dessiner.
Évidemment, l'aspect idéologique est très important, surtout que le gouvernement ne souhaite lâcher sur aucun point important de la réforme. Toutes les réunions auxquelles assistent les syndicats portent sur des points accessoires, c'est-à-dire les délais d'ouverture à la concurrence et les modalités de reclassement des cheminots de la SNCF vers de leur statut à la SNCF vers l'opérateur privé qui pourra reprendre les lignes. Donc évidemment, il y aura pas d'accord et on assiste vraiment à deux visions de la société qui ne se réconcilieront pas en quelques jours parce que personne n'y a intérêt finalement et personne ne voudra lâcher sur ce qui fait son identité. L'identité d'En Marche, c'est d'aller au bout de cette réforme. L'identité des cheminots, c'est de défendre leurs droits jusqu'au bout.
Anne-Elisabeth Moutet.
Eh ben, je pense que c'est là où on voit la limite d'un gouvernement par les technos pour les technos, c'est-à-dire qu'il y a tout de même une technique à la négociation sociale. On plaisantait hors antenne à l'instant de Raymond Soubi, le conseiller en affaires sociales qui a commencé chez Raymond Barre et qui a conseillé tout le monde sauf Emmanuel Macron et qui doit être en train de regarder ça avec intérêt. Parce que Emmanuel Macron s'est fait enfermer comme un bleu dans une boîte. Justement, on est tous en train de dire, voilà, c'est de nouveau le retour de la gauche et de la droite. Or, sa grande différence, c'était ni gauche ni droite, mais autre chose différente, plus moderne. Et il s'est fait mettre dans une boîte par des gens qui l'ont accusé, les syndicalistes, ils avaient tout à fait la raison de profiter de ça, de vouloir casser le service public, s'opposer au peuple, dénoncer comme privilégiés des gens qui gagnent pas beaucoup d'argent, etc., etc. Et ils n'ont pas compris que tenir bon, c'est une chose, se raidir et ne pas savoir discuter, c'en est une autre. Il est évident que Madame Borne, si elle passe 6 heures avec des instructions qu'elle n'est pas capable d'aller hors piste et de se rendre compte à quel moment il faut lâcher les choses et d'avoir demandé conseil à des gens qui s'y connaissent en relations sociales. Non, en ce moment, tout le récit et toute l'image de ce conflit a été créé par un seul côté, qui est le côté des syndicats, qui vont récupérer quelque chose qu'on pensait établi. Moi, je pense que c'est une série de conneries par le gouvernement. Là.
D'accord. C'est dit, en tout cas, voilà. C'est Anne-Sophie Beauvais, pour vous, aujourd'hui, on le voit, est-ce que il y a une sorte de petite musique qui est que chez En Marche, enfin au gouvernement notamment, c'est si on arrive à réformer la SNCF, tout passe ensuite. Est-ce que c'est
ça ? Je crois qu'il y a une valeur hautement symbolique, effectivement, pour cette réforme, et que c'est pour ça. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron est un homme plutôt intelligent et que, d'une certaine manière, il s'est mis dans cette seringue en étant à peu près conscient, quand même, de ce qui allait se passer et avec cette conscience qu'il fallait tenir bon, parce qu'effectivement, il y a des réformes derrière, et si on lâche sur celle-ci, il y aura un effet domino sur les suivantes. Mais je crois qu'on rentre, alors, conflit idéologique droite-gauche peut-être, mais je crois qu'on rentre vraiment au cœur de ce qu'est le macronisme. Enfin, on le voit se construire sous nos yeux, le macronisme, mais ce qu'on a quand même beaucoup entendu pendant la campagne présidentielle, c'est tout ce discours d'Emmanuel Macron sur le fait de casser des rentes, en fait. C'était quelque chose qui revenait. Alors, sa volonté de transformer, de moderniser le pays, il y a des choses qui ne fonctionnent plus. Beaucoup de gouvernements se sont cassés les dents, notamment sur cette réforme de la SNCF. Donc, moi, je m'engage, Emmanuel Macron le disait ainsi, à faire bouger les choses, à réformer, à transformer. Donc là, on est totalement dans ce qu'il avait annoncé. Et puis, il y a cette idée aussi de casser les rentes. Malgré tout, les cheminots, c'est une rente. Et donc, je crois que sur tout ça, il ne peut pas lâcher. Et après, il y a une temporalité qui s'installe de négociations. Je pense que des choses se disent quand même. On ne peut pas être enfermé 6 heures dans une salle ou 8 heures sans qu'on se dise quoi que ce soit.
Faire des belles cocottes aussi, vous savez. Alexis Poulain.
C'est un moment Thatcher, en fait, où là, il y a ce côté je vais montrer mes muscles et les gauchistes ne mourront pas. C'est vraiment ça. Non, mais vraiment, il y a cette volonté de casser le mouvement. Parce que, effectivement, c'est une erreur de rentrer déjà dans une négociation, d'ouvrir autant de chantiers, sachant que la santé est en colère, les retraités sont en colère, les étudiants sont en colère, les cheminots sont en colère, et au-delà, les usagers. Enfin, on arrive à un moment quand même où beaucoup de gens sont en colère.
Non provoqués, parce que Thatcher, alors, elle répondait à des grèves qui existaient.
Par manque de moyens, mais là, la grève, effectivement, va se greffer, mais on va avoir deux tranchées, là, une guerre de tranchées, une guerre de position, d'où la grève perlée. C'est intelligent de dire on va durer longtemps parce que si on commence à aller à la rue, ça marchera pas, on va se faire avoir.
Il y a quand même, enfin, je veux pas me faire la défenseuse du macronisme, mais je pense qu'il y a quand même une vraie vision malgré tout de long terme. Tous ces sujets sont pas nouveaux, la santé, les universités, la SNCF, ces sujets-là ne datent pas d'hier, et le besoin, en tout cas, de modernisation, de transformation, après c'est les conditions dans tout ça.
C'est pas tant ça qu'un besoin d'argent. Quand vous entendez tout le monde, on a besoin de moyens, on veut faire notre métier. La crise de la SNCF, c'est les technos qui l'ont faite.
Oui,
c'est
mais
les
la SNCF,
publics.
Là, est soumise à un vrai choc de concurrence. Et vous ne pouvez pas imaginer affronter ce choc de concurrence, mais c'est valable.
Mais ce choc de concurrence, il est voulu dans le cadre du paquet ferroviaire européen. Donc, ce que fait le macronisme, si tant est qu'il existe, c'est de suivre le cadre européen. C'est à peu près tout ce qui est le programme d'Emmanuel Macron depuis le début. Faire plaisir à Angela Merkel et s'assurer d'être bien vu par l'Allemagne pour construire son projet européen. Ce qui est un temps d'eux. Mais à part ça, il n'y a rien d'autre. Et ça, c'est idéologique de croire que le marché va être la raison.
Alors, ce qu'on va voir, pourquoi justement, est-ce qu'on va voir si c'est vrai ou pas dans un instant, l'info à 20h20, Noémie Bonin.
Jean-Vincent Placé sera jugé le 11 juillet prochain devant le tribunal correctionnel de Paris. Il a été déféré au parquet en début d'après-midi après deux nuits passées en garde à vue. L'ancien secrétaire d'État a été arrêté avant-hier avec un taux élevé d'alcoolémie. Il est soupçonné notamment d'avoir lancé des insultes racistes. 15 ans de prison pour deux jeunes hommes partis combattre en Syrie dans les rangs djihadistes. C'est le verdict de la cour d'assises de Paris ce soir. Ils sont originaires de Toulouse, âgés de 22 et 23 ans. Ils ont exprimé des regrets pendant le procès. Carles Puigdemont appelle Madrid au dialogue. L'ancien président de la Catalogne veut arrêter la confrontation avec le pouvoir central. Il est sorti de prison aujourd'hui en Allemagne contre une caution de 75 000 euros. Mais il lui interdit de quitter le pays dans l'attente de la décision finale sur son cas et d'une possible procédure d'extradition vers l'Espagne. La conclusion assez sévère des sénateurs à propos du scandale Lactalis. Les dysfonctionnements qui ont mené à la contamination au salmonelle de lait pour bébé auraient tous pu être évités, affirment les élus. Ils formulent des propositions pour éviter qu'une telle affaire ne se reproduise. Et puis le titre de champion de France peut clairement se rapprocher pour le PSG. S'il remporte son match ce soir face à Saint-Etienne, coup d'envoi 20h45, il faudrait aussi que Monaco s'incline demain contre Nantes.
France Info.
20h-21h, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Tiens, de quoi on parle? Ah bah oui, tiens, la réforme de la SNCF, c'est étonnant. Eh bien, aujourd'hui, il y a encore une réunion qui n'a rien donné, comme celle d'hier qui a duré 6 heures. Alors hier, vous savez, France Info, avec Odoxa, a publié un sondage montrant que 57% des Français interrogés trouvent que le mouvement de grève reconductible injustifié, mais Ils sont 51% à penser que le gouvernement doit tout faire pour éviter cette grève, quitte à renoncer à certains points de sa réforme. C'est un peu contradictoire, non, Elisabeth Moutet?
Le gouvernement, en réalité, il avait un plan qui n'est pas du tout aussi brutal qu'on en a l'impression. Le style était brutal et le plan ne l'était pas. Et si ça avait été l'inverse, probablement, ça aurait été
Est-ce
mieux.
Est-ce que ce n'est pas été une erreur de tout mettre sur les cheminots sans parler de la dette au départ?
Il a parlé de la dette, mais pas beaucoup.
Non,
il n'a pas parlé assez. Et puis surtout, on ne change le statut d'aucune personne employée par la SNCF en ce moment. Ce sont les nouvelles embauches. Alors, c'était même quelque chose qu'on aurait pu vendre plus facilement qu'en disant on va être droit dans nos bottes. Genre Juppé en 95, avec tout ce que ça suppose, et ensuite de dire qu'on ne lâchera absolument rien, et surtout si c'était symbolique. Et effectivement, le gouvernement a voulu que ce soit symbolique et il a voulu en faire un symbole de fermeté. C'est pas ça qui est nécessaire. Ce qui était nécessaire, c'était de passer quelque chose.
Étienne Girard, est-ce que c'est pas contradictoire, là, les Français? Alors, ils disent en effet, on est embêtés par la grève, on voudrait que ça s'arrête, donc il faut que le gouvernement, c'est-à-dire que les syndicats les embêtent et en même temps le gouvernement les embête aussi. Donc,
les Français veulent tout. C'est-à-dire qu'ils veulent des trains qui marchent et en même temps, ils sont d'accord avec le gouvernement. Ah oui, Emmanuel Macron a été élu pour réformer. Ouais. Voilà, il faut plus qu'il y ait de rente. Les cheminots sont des rentiers. Donc il a raison. Mais alors là, il me semble que ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est très intéressant parce que quelque chose est en train de se retourner contre le gouvernement. Ils nous ont expliqué, on va faire de la concertation. Et dans un premier temps, ça a été bénéfique. C'est-à-dire que les Français se sont dit, ils sont pas si brutaux que ça, puisqu'ils négocient avec les syndicats. Et aujourd'hui, on est en train de voir que cette concertation-là ne marche pas et est une coquille vide. C'est-à-dire que Benjamin Griveaux, ce matin, il nous dit, on a discuté pendant 6 heures, il y a bien des choses qui ont été dites, il est incapable d'expliquer quelle mesure a été discutée et ce qui a été donné aux syndicats. C'est assez intéressant.
Alors, une chose, vous le disiez en ce moment, donc voilà, on m'assiste ou pas, on verra bien ce qui se passe avec l'opinion, mais on en parlait hier, donc il y a une mobilisation donc à gauche, ça s'organise pour crier on lâche rien et discuter une saucisse en manifestant, puisque une marche à Marseille le 14 avril emmenée par Jean-Luc Mélenchon, une autre le 5 mai lancée par le député François Ruffin. Et le PS, dans tout ça, eh bien, à la veille de son congrès, il est un peu colère, hein, puisque pour lui, il faut différencier mobilisation syndicale et réunion politique. Et le futur premier secrétaire qu'il est déjà du Parti Socialiste, Olivier Faure, eh bien, il en profite pour tacler tout le monde. Ça commence bien, cette histoire, Olivier Faure.
Le mouvement social, ça n'est pas le congrès de réunification des gauches. Ça n'est pas le moment où les partis de gauche viennent se placer en tête de cortège et viennent instrumentaliser une manifestation dans laquelle il y a des gens qui, y compris, ne se reconnaissent pas forcément dans nos combats. J'observe que dans la phase précédente, sur les ordonnances sur la loi travail, eh bien, lorsque Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis ont souhaité être les cornacs de cette manifestation, quand ils ont souhaité diriger le mouvement social, eh bien, ça l'a plutôt asphyxié.
Voilà, donc Olivier Faure, donc ce matin sur Europe 1, Anne-Sophie Beauvais, justement, ses opposants, là on le voit, Olivier Faure, est-ce que ça vous étonne que le PS tacle les opposants, parce qu'ils se disent le PS contre la réforme, mais ils ne veulent pas les manifester.
Tout le monde est un peu dans le en même temps, en fait.
Ah bah c'est bizarre, ça.
Les Français le sont, le PS aussi, mais en même temps, tout ça, ça s'explique assez bien. Ça s'explique pour, les Français, ça s'explique. Je pense qu'ils comprennent assez bien la nécessité d'une réforme de la SNCF, mais ils aiment bien leurs cheminots. Le PS a besoin, surtout qu'il y a un nouveau président, Olivier Faure, il a besoin d'exister, il a besoin de remontrer que le PS est là, est présent, donc de se distinguer un petit peu et de pas être englouti dans une manifestation commune, dans une union des gauches. Donc,
ouais, c'est ça. En fait, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à se remettre du fait d'avoir perdu, que c'est plus les leaders de la gauche, en fait, aujourd'hui. Voilà. C'est ça, c'est un peu ça. Alexis Poulain.
Bah, c'est ce qu'il dit. En fait, il a peur de voir qu'effectivement le pôle de gauche ne va pas se restructurer au-dessus du PS, qui est un parti mort-vivant. Enfin, il y avait un portrait de Libé qui était très drôle sur le service d'ordre, où c'est les derniers socialistes qui ne vont pas aux manifs d'ailleurs, qui sont contre la position de Faure. Et dire que quelle erreur, mais enfin quel manque de vision stratégique de penser que le mouvement social n'est pas justement un prétexte pour les partis de gauche pour en profiter, pour être visible dans l'opposition.
Lui, qu'il dit, c'est est-ce que finalement syndicats, les partis doivent se raccrocher aux syndicats? Est-ce que c'est des manifs?
Évidemment. Ouais. La réponse est oui. Et le PS ne s'est pas privé par le passé. Donc c'est vraiment difficile pour lui de se positionner entre constructif et ne pas exister.
Pourquoi ça vous fait rire, Elisabeth Moutet?
Alors ça me fait rire à deux points de vue. D'abord parce que j'ai jamais vu un homme politique aussi sincère que Olivier Faure. Il a dit je voudrais pas que Mélenchon soit en tête de cortège. C'est essentiellement la vérité s'exprime par sa bouche. Ça n'arrive pas souvent dans les émissions politiques.
Ça arrive. Les hommes politiques,
j'ai pas envie d'être le dernier dans cette histoire-là. L'autre, c'est qu'en Grande-Bretagne, le Parti travailliste est lié organiquement. important au mouvement syndical. C'est il s'appelle sûr. Labour, pas par hasard. Là, on est membre d'un syndicat et du Parti travailliste de manière, enfin, les uns financent l'autre, etc. Et donc, l'idée que c'est pas au parti politique d'aller dans les manifestations de gauche, enfin, vraiment, je trouve ça absolument merveilleux, mais ils tombent de la lune.
Une chose rapidement, Étienne Gérard, on les a vus surtout le PS aussi se faire mettre de côté lors de la manifestation du 22 mars. On se souvient, hein, Olivier Faure, extrait du cortège.
Mais vous savez que c'est ce qui explique cette sortie d'Olivier Faure. Il fait passer la faiblesse du Parti Socialiste pour du respect des manifestants. Mais quand le Parti Socialiste était fort, je peux vous dire qu'il ne se privait pas pour noyauter les cortèges. Et d'ailleurs, l'UNEF, la FIDEL, les organisations étudiantes et lycéennes ont été créées pour permettre au Parti Socialiste d'avoir des relais au sein du mouvement social. Donc c'est assez politicien de la part d'Olivier Faure. Et en même temps, pas si bête parce qu'il essaye de mettre un coin entre Jean-Luc Mélenchon et les syndicats. On sait que les syndicats sont assez anti-parti. Et donc, il voudrait qu'il y ait une réaction de ces syndicats. Jean-Luc, mets-toi un peu en retrait, c'est notre mouvement.
Allez, dans un instant, on va parler de l'Europe. On parlera également du scandale Facebook. Voilà la suite du programme des informés de France Info. On en profite, c'est juste avant le week-end. Allez, on revient dans quelques minutes.
Une belle histoire avec Business France.
Pour la PME que je dirige, le développement à l'international est une priorité. Avec Business France, nous avons pu recruter les commerciaux et les technico-commerciaux dont nous avions besoin. Ce sont des VIE, volontaires internationaux en entreprise, des jeunes de 18 à 28 ans dont les capacités et l'expérience font vraiment la différence. Résultat, un bond de 30% du chiffre d'affaires à l'export. Une belle histoire.
Renseignez-vous. 0810 659 659, coût d'un appel local. Ou export.businessfrance.fr.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, récoltés à la main par les petits producteurs dans le respect de la biodiversité. À retrouver sur malongo.com.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Un week-end mitigé, demain ça se gâtera par l'ouest, de la pluie du nord-ouest à la côte aquitaine, plus soutenue l'après-midi vers le Pays Basque. Quelques averses possibles entre la baie de Seine, le Poitou, Midi-Pyrénées. Plus à l'est, des éclaircies, plus belles vers le nord-est. Attention aux avalanches sur le nord des Alpes. Le vent sera encore fort entre le Massif central et les Pyrénées, jusqu'à 110 km à l'heure sur les Pyrénées et dans le domaine de l'OTAN. Il fera 4 à 13 degrés le matin, l'après-midi 13 à 17 degrés sous la pluie, mais 17 à 23 ailleurs. Dimanche, la pluie gagnera le sud-est, quelques averses entre le nord-ouest, le centre et Rhône-Alpes avec 12 à 18 degrés. Entre le nord de la Seine, la région parisienne et le nord-est, ça restera ensoleillé et doux avec 17 à 22 degrés.
Avec meilleurtaux.com, comparez les assurances auto. Économisez 335 euros en moyenne et bénéficiez d'un mois offert, quel que soit l'assureur. Conditions sur meilleurtaux.com, courtier inscrit à l'Orias.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Hugo Charpentier, bonsoir.
Bonsoir. Des négociations dans l'impasse à la SNCF. Une nouvelle réunion entre les syndicats de cheminots et la ministre des Transports, Elisabeth Borne, s'est soldée par un échec aujourd'hui. Visiblement, Guillaume Gaven, syndicats et gouvernement ne parlent toujours pas le même langage.
Une réunion de plus pour rien, semblaient dire les syndicats à la sortie du ministère. Aujourd'hui, il a beaucoup été question, comme attendu, du statut du cheminot. Le gouvernement veut la fin des recrutements sous ce régime. Il est inflexible sur le sujet, même si la date de fin de ce régime n'est pas encore fixée, dit-on au ministère, parce que le sujet reste hautement explosif, particulièrement remonté contre cette suppression. Éric Meyer, l'un des secrétaires de Sudrail.
On a d'un côté le ministère qui supprime le statut et de l'autre côté la direction qui supprime le statut pour les cheminots qui restent. Donc c'est absolument inacceptable ce qui vient de se passer aujourd'hui. Il n'y a pas de négociation. Aujourd'hui on nous enfume et l'objectif c'est bien de démanteler l'entreprise et de démanteler les cheminots.
La fin du statut du cheminot, même les plus modérés des syndicats ne comprennent pas la crispation du gouvernement sur le sujet. Didier Aubert, le secrétaire général de la CFDT Cheminots.
On a le sentiment que c'est plus une mesure dogmatique visant à accrocher le statut comme un trophée de chasse au-dessus d'un cheminot du président Macron, plutôt qu'une mesure rationnelle visant effectivement à prouver que la suppression du statut serait la solution pour faire arriver les trains à l'heure, qu'il n'y aurait plus de panne sur le réseau et qu'il y aurait plus de trains et moins cher.
Ce qui n'est donc pas encore prouvé, la ministre s'est, paraît-il, engagée à fournir des documents écrits aux prochaines réunions. Les cheminots attendent de voir.
Guillaume Gaven pour France Info. Et ce soir, la CGT Cheminot estime que la grève pourrait aller au-delà du mois de juin. La mobilisation qui doit d'ailleurs reprendre demain à partir de 19h et jusqu'à 8h mardi matin. Il avait jusqu'alors refusé de fournir des détails sur les circonstances de la mort de la petite Maëlys. Nordal Lelandais livre sa version des faits aux enquêteurs. L'ancien militaire explique avoir giflé la fillette, un coup qui, selon lui, a entraîné la mort de l'enfant. Nordal Lelandais, qui a avoué également avoir tué le caporal Arthur Noyer, il évoque cette fois-ci une bagarre qui aurait entraîné, selon lui, une chute mortelle. Compositeur, interprète, comédien, écrivain et poète de génie, Jacques Higelin est mort aujourd'hui à l'âge de 77 ans. Le rockeur français, très engagé, a marqué toute une génération. À l'occasion de sa disparition, des chaînes de télévision bousculent ce soir leur programme. Arte diffuse, par exemple, à partir de 22h55, un documentaire et portrait sur Jacques Higelin réalisé par Sandrine Bonner. La comédienne a suivi le chanteur lors d'une de ses tournées en 2014. Le chanteur entouré de ses musiciens fidèles parmi les fidèles. Nouvelle journée meurtrière dans la bande de Gaza. 5 Palestiniens tués et plus de 400 blessés aujourd'hui par l'armée israélienne le long de la frontière avec l'État hébreu. Des milliers de Palestiniens ont pris part à une nouvelle vague de protestations demandant le retour des réfugiés et la fin du blocus de Gaza par Israël. Vendredi dernier, une première journée de manifestation avait fait une vingtaine de morts et plus d'un millier de blessés. 20h33 sur France Info. La suite de Tout est politique. Jean-Mathieu Pernin.
Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, et oui, tout est politique, c'est dans une demi-heure déjà. Et oui, pour l'instant, c'est les informés de France Info, donc jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils verdissent, tout simplement, après une journée au soleil en terrasse. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent l'éditorialiste au journal britannique The Telegraph, Anne-Elisabeth Moutet, également Étienne Girard de Marianne, Anne-Sophie Beauvais, directrice de l'association des anciennes Sciences Po. Et alors, justement, vous publiez chez Plon un livre, on s'était dit rendez-vous dans 20 ans. Qu'est-ce qu'il y a eu il y a 20 ans, en fait? Il y a 20 ans de ça?
Il y a 20 ans de ça, on était tous à Sciences Po, en fait. J'étais dans la promo d'Emmanuel Macron avec d'autres camarades, comme on dit.
Alors, il y a dedans, il y avait qui, justement, cette promo?
Il y avait Natacha Polony, il y avait l'ancien ministre de François Hollande, Mathias Fekel, Florian Zeller, l'écrivain, Gaspard Ganzer, Mathieu Laine, l'entrepreneur. Voilà, on était quelques-uns. Et donc, je reviens effectivement dans ce livre sur dans quoi nous avons baigné quand on avait 20 ans. Est-ce qu'on a finalement des marqueurs communs? La réponse est plutôt oui. Et puis, j'analyse un peu cette génération. On a tous presque 40 ans, voire même déjà 40 ans. Et finalement, c'est quoi être quadragénaire aujourd'hui?
D'accord. Donc, il y a eu des choses incroyables avec Emmanuel Macron, des chenilles, des choses comme ça, des slow dans ce film,
Emmanuel Macron est un étudiant très brillant, mais relativement discret pour tout ce qui touche un peu à la vie associative. Mais il avait une vie qui était quand même très atypique aussi pour un jeune de son âge. Fréquenter une femme de 25 ans de plus que lui, ça rend pas tout à fait les mêmes études. Non plus, il y a quelques petites histoires comme ça que je raconte dans mon livre malgré tout. Mais...
C'est ça, on s'était dit rendez-vous dans 20 ans chez Plon et également avec nous, bien sûr, le journaliste européen Alexis Poulain. Et justement d'Europe, on va en parler puisque près d'un an après la victoire d'Emmanuel Macron, vous pouvez faire un petit jeu. Et vous pourrez même accueillir cette idée en disant youpi, c'est pas mal. Ce week-end, réunissez vos amis autour d'un verre de Palermo et demandez, au fait, c'est quoi La République En Marche? Un parti? Oh non. Un mouvement? Bof. La maison d'Emmanuel Macron? Bah plus vraiment. Mais c'est qui Emmanuel Macron? Bon alors ça c'est quand il y a trop de Palermo en fait. Étrange objet politique non identifié, La République En Marche, la REM, est en plein questionnement existentiel. Une enquête d'opinion, vous l'avez dit tout à l'heure, montre que le parti présidentiel est désormais perçu par une majorité de Français comme un parti classé à droite. Des députés s'interrogent sur Gérard Collomb et sa loi Asile et Immigration et nombreux sont les militants à s'interroger, eux, sur les débats internes. Alors pour remotiver les troupes, La République En Marche lance une grande marche européenne ce week-end afin de mobiliser les électeurs pour les élections européennes, d'ailleurs qui auront lieu dans un an. UKID, c'est donc parti. En entreprise, on appelle ça un stage de team building. On essaye, justement, Thierry Gérard, de ressouder les troupes à La République En Marche en ce moment, un petit peu.
C'est évidemment l'idée. Il me semble qu'il y a deux sujets. Il y a le sujet de l'Europe et il y a le sujet de la Grande Marche.
C'est ça.
La Grande Marche, ça m'intéresse particulièrement parce que, en fait, Emmanuel Macron et ses amis essayent de refaire le tour de passe-passe de la fondation d'En Marche. C'est-à-dire de dire, on a un mouvement horizontal, on va aller au-devant des gens, on va écouter toutes les propositions et on va en faire un programme. On a vu ce qu'il en a été d'Emmanuel Macron et de La République En Marche, puisqu'on est parti d'un mouvement horizontal pour finir par sur un mouvement absolument vertical.
Mais le souci, Étienne, c'est que ça, c'était fait avant la présidentielle. Emmanuel Macron était vierge de toute expérience, on va dire, en haut du pouvoir, sauf ministre de l'économie. Là, forcément, ce que disent des marcheurs, c'est que ils vont sonner chez les gens. Maintenant, on va leur dire, ah bah alors, la taxe d'habitation, alors le pouvoir d'achat, c'est autre chose. On va aller sur plutôt que l'Europe, non ?
Exactement. C'est un peu le problème. Ça n'apportera aucune réponse technique sur l'Europe. Ils vont récolter des états d'âme des habitants. Non, mais c'est très important.
Bien sûr. Hein.
Et ce qu'ils vont s'apercevoir, ils le savent déjà d'ailleurs, qu'il y a un euroscepticisme et une eurodéception extrêmement importante en France. Est-ce qu'ils vont en faire un programme ? Absolument pas, puisque la philosophie d'En Marche, c'est plus de fédéralisme. Donc c'est un gadget.
Anne-Elisabeth Moutet.
Alors je suis pas d'accord là. Je pense que c'est faire les questions et les réponses de dire ça, parce que il y a une différence entre avant En Marche et la campagne de Macron de 2017, il y a eu le désir d'avenir de Ségolène Royal, puisqu'elle avait toutes ses associations et qu'on était censé faire remonter des tas de choses, etc. Le seul problème, c'est qu'ils n'ont jamais traité et lu même les questionnaires qui remontaient par milliers. Alors que En Marche, ils en ont vraiment lu des milliers, ils se sont astreints tous les gens, Griveaux, Macron, etc., à en lire des tas, et ça leur a appris
des
choses.
Est-ce que là, vous pensez que c'est une chose à faire, par exemple, sur l'Europe ? Parce qu'on sait aujourd'hui, comme il est au pouvoir, est-ce que les gens, quand vous sonnez à leur porte, est-ce qu'ils vont davantage vous parler des problèmes de pouvoir d'achat que de l'Europe, non ?
De toute façon, l'Europe, ça concerne absolument tout ce qu'on fait, que ce soit la législation, que ce soit le pouvoir d'achat, que ce soit l'économie. La législation, c'est 80% de notre législation maintenant, c'est en fait un décalcage de la législation européenne. Et s'il y a un malaise, c'est identifier les failles dans le discours anti-européen et voir où c'est possible et où c'est pas possible. Donc je pense que cette marche-là, se dire qu'on va reconstruire un parti qui maintenant existe, ça, je pense que ça marche pas comme solution, comme team building, je suis pas sûr que ça fonctionne. Pour les troupes, c'est pas faux, mais pour apprendre, en revanche, au niveau du terrain, ce que la France périphérique reproche éventuellement à l'Europe, et où est-ce qu'on peut trouver des failles et des moments pour refaire venir l'idée d'Europe, ça, je pense que c'est absolument essentiel. Il a tout de même gagné cette élection de 2017 avec des drapeaux européens dans tous ses
meetings. Tout à fait. Alors, justement, Alexis Poulain, est-ce qu'on a besoin de ça pour connaître les failles aujourd'hui sur le problème européen en France ?
Je crois que les failles, c'est pas le discours, c'est qui a accès, qui profite de cette mondialisation, de cette fédération, et qui est laissé de côté. La France périphérique, elle existe partout. Elle existe d'autant plus dans les pays partenaires d'Europe de l'Est. Et là, on voit bien qu'est-ce qui se passe. C'est le discours populiste d'extrême droite qui l'emporte. Avec,
mais pas
en
anti-européen
plus,
alors, il est
anti-immigration, il est sur les fermetures, il est sur l'État-nation, il est sur le fait que l'échelon qui protège, c'est bien la nation, et attention à l'étranger, et attention au fédéralisme, parce que l'Europe, c'est quand même un peu trop les États-Unis. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont dans le discours d'un Orban, et qui est protégé en plus par le PPE. Aujourd'hui,
Parti populaire européen.
Voilà, qui est le parti qui fait la plus beau temps au Parlement européen, et qui protège Orban, et qui, maintenant, par le biais de Joseph Daul, souhaite même un débat identitaire sur c'est quoi qui fait l'Europe, avec une grande croix en disant bien sûr l'Europe est chrétienne, l'Europe est... Donc on vient dans des thèmes un peu dangereux où la droite classique va se radicaliser également, et le coup d'En Marche qui était de dire venez on va faire un grand centre, ça va être compliqué parce que le PPE va pas lâcher comme ça ses troupes. Donc reste à voir ce que sera la grande marche, sachant que l'Europe aussi va faire des consultations citoyennes.
À l'initiative d'Emmanuel Macron, donc en fait il a doublé son propre initiative.
C'est un
peu compliqué. Allez, on va continuer, on va essayer justement de comprendre ce qui se passe en Europe et En Marche en même temps. Tout ça, j'ai fait vraiment une phrase macroniste là. L'info à 20h40, c'est Noémie Bonin.
Et les scénarios se précisent autour des meurtres de Nordal Lelandais. À propos de Maëlys, il raconte l'avoir prise dans sa voiture, mais qu'elle s'est agitée, qu'elle a crié et qu'il lui a mis un coup au visage. C'est comme ça qu'il explique la mort de l'enfant en Isère l'été dernier. Autre dossier, celui d'Arthur Noyer. Nordal Lelandais parle là d'une bagarre qui a provoqué la chute mortelle du militaire. Une nouvelle réunion et aucune avancée sur le dossier de la SNCF. Les discussions d'aujourd'hui au ministère des Transports n'ont rien donné. On nous en fume, disent les syndicats. La grève pourrait aller au-delà du mois de juin si le gouvernement persiste dans cette direction, affirme la CGT Cheminot. Un gros nuage de fumée mélangé à des gaz lacrymogènes aujourd'hui à la frontière entre Gaza et Israël. Nouveau vendredi de colère aujourd'hui. Les Palestiniens réclament toujours le droit au retour des réfugiés. 7 ont été tués, ce qui porte le bilan en tout depuis vendredi dernier à 27 morts.
La communauté internationale au secours du Liban. Près de 9 milliards d'euros sont promis en clôture de la conférence à Paris. C'est une mobilisation exceptionnelle, affirme Emmanuel Macron, notamment pour maintenir la stabilité. Le pays accueille de très nombreux réfugiés syriens. Les hommages se poursuivent après la mort de Jacques Higelin. Parmi les derniers, Patrick Bruel notamment. Il se souvient d'un concert à La Rochelle en 87. Ce soir-là, tu m'as donné la force et l'audace. Merci Jacques, salut l'immense artiste, écrit le chanteur.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Attention, ce week-end, des gens vont sonner à votre porte. Alors surtout, n'ayez pas peur, ce sont juste des marcheurs. Et oui, le parti d'Emmanuel Macron, il existe encore. Enfin, le mouvement d'Emmanuel Macron, le mouvement majoritaire, hein, d'ailleurs, en France, de La République En Marche. Ce week-end, il lance une grande marche pour l'Europe. Les élections européennes, c'est dans pile un an, mais bon, eux, ils s'y prennent assez tôt. Il faut dire qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'Europe. Anne-Sophie Beauvais, le scrutin sera donc national l'année prochaine, c'est-à-dire une liste, hein, seulement pour chaque parti, pour tout le pays. Est-ce que ces élections, finalement, maintenant, ça va pas être une sorte d'élection mi-terme, finalement, américaine, de mi-mandat, où il y aura plus des questions nationales qu'européennes, pour être jugé, d'après vous?
Ah oui, c'est certainement, parce que effectivement, 2019, ça va être une échéance importante pour Emmanuel Macron, échéance importante parce que lui-même a placé ce thème de l'Europe quand même là aussi très très au cœur de sa politique. Si je peux juste dire un mot sur le mouvement En Marche, moi-même pour avoir milité quelques années au sein d'un parti politique, honnêtement, il n'y a pas une grande originalité dans le mouvement En Marche, ni dans cette grande marche, ni dans ce porte-à-porte, ni dans cette consultation. En fait, le mouvement En Marche est un parti assez traditionnel. On distribue des tracts à un moment donné sur des sujets. On envoie des militants sur le terrain. Alors, on dit qu'on prend le pouls de la société. Tout ça, c'est pas des mauvaises pratiques, hein, d'ailleurs. Mais voilà, il n'y a pas une grande originalité là-dessus. Par contre, il y a un vrai sujet, effectivement, derrière, qui est celui de l'Europe. Je pense qu'il y a une grande... Alors, je ne sais pas si cette marche sera utile à ça, mais il y a quand même une urgence à penser que... Enfin, essayer de démontrer que l'Union européenne, ce n'est pas juste un centre de coordination et que ça peut être une vraie puissance politique, une vraie puissance publique. Et là-dessus, il y a un travail phénoménal à faire et ça va être vraiment... effectivement, il va falloir une figure nationale pour porter cette liste si Emmanuel Macron le souhaite qu'il soit assez fort. Moi, il y a juste un petit événement quand même qui passe inaperçu, mais moi qui m'a beaucoup frappé, c'est Martine Selmayr, qui est l'ancien chef de cabinet de Juncker, qui a été... De Jean-Claude Juncker, qui a été nommé secrétaire général de la Commission européenne, comme ça, tout à fait discrètement. On n'a auditionné aucun autre candidat.
Illégalement.
Illégalement, je ne sais pas, mais en tout cas très discrètement, sans concurrence, sans audition, sans rien. Je dis ça parce qu'il serait juste temps de montrer que la Commission européenne n'est pas dans une bulle, que Bruxelles n'est pas dans une bulle. Et cette déconnexion entre ce que vont penser les Français, les Européens de Bruxelles, voilà, il y a quand même.
C'est pas fini, hein. Il y a des auditions à Bruxelles.
Voilà, alors juste, qu'on rentre pas justement dans la technicité juste de ça, mais c'est parce que c'est vrai que Bruxelles aussi, il y a souvent un fantasme. C'est vrai qu'on les politiques, oui, notamment en France, on met souvent beaucoup de choses sur le dos. Hein.
C'est symbolique, l'histoire de Selmayr-Gate, c'est symbolique de ça.
Oui, bien sûr.
Il y a ça, le fait qu'effectivement, cette bulle de Bruxelles qui est fait, enfin, c'est quand même incroyable. Ma chronique d'ailleurs aux médias il y a quelques semaines parlait de cette affaire, et c'est Jean Quatremer qui l'a sorti et qui lâche pas l'affaire, heureusement. Mais sans ça, ça passait totalement inaperçu en disant, mais oui, mais c'est normal. On a respecté les règles, pas du tout.
Et, il devient l'homme et derrière, le plus puissant de la Commission sans que personne ne sache comment.
Il l'est depuis Juncker, en fait, qui est là, qui est un peu fatigué et qui dit, bon, vas-y Martine, fais le boulot. Et derrière, les commissaires se taisent et c'est en ordre serré jusqu'au point où le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, a dit, si vous n'êtes pas content, je démissionne. C'est pas possible de faire des choses pareilles.
Pourquoi pas Jacques Santer avait démissionné?
Alors oui, qu'il parte, voilà.
Juste une chose, quand même, sur ces élections européennes, est-ce qu'Emmanuel Macron,
comme le dirait Macron,
Anne-Elisabeth Moutet, est-ce qu'Elisabeth Macron, on se souvient quand il a été élu président, président de 39 ans, était salué en Europe. Est-ce que c'est toujours le cas? Parce qu'on voit en Allemagne, par exemple, Emmanuel Macron est moyennement apprécié. On voit qu'il y a plein de décisions, notamment sur l'euro, etc., où ça marche pas trop. Est-ce qu'il est toujours apprécié, Emmanuel Macron?
Essentiellement, oui, et même sur la scène mondiale. Et je dirais que ce que les Allemands lui reprochent, essentiellement, c'est ce qu'ils reprochent à la France, c'est-à-dire vos réformes, c'est pas assez sérieux, votre dette, bon, ça s'arrange un tout petit peu, mais c'est pas tout à fait ça. Mais dans l'ensemble, il y a l'idée de quelqu'un qui est à la fois jeune, décidé, qui a une notion, enfin, qui fait respecter la France, et qui a une manière de prendre les problèmes rapidement et de vouloir les régler.
Ça fait un peu Matteo Renzi aussi, hein.
Matteo Renzi, il est arrivé nulle part. Alors,
non, mais bien sûr, bah oui, non, mais non, parce que quand il est arrivé, c'était un petit peu.
Vous voyez la même chose. Qui s'est passé avec le président Trump. De tous les dirigeants européens, le seul qui s'est servi et qui s'entend bien avec Trump, c'est Macron, qui a été parfaitement clair, cynique et froid, et qui a dit il y a un président aux États-Unis. C'est pas à moi de dire si c'est le bon ou si c'est pas le bon. Et ils ont des relations convenables, ils font des choses ensemble. Il vient de recevoir Mohamed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite, qui est en train de faire vraiment un changement tectonique au Moyen-Orient. Il y a un énorme respect dans ces cas-là. Non, dans l'ensemble, Macron et les Anglais, malgré tout, moi, c'est la première fois depuis que je travaille pour le Télégraphe, ça fait, si j'additionne les différents moments où j'y suis allé presque 30 ans, qu'on me dit, ah ben, on vous envie, tout de même, vous avez vraiment quelqu'un de sérieux comme président.
Alexis Poulain,
Anglais disant du bien des Français, ça n'arrive pas.
Alexis Poulain, sur Macron, justement, apprécié toujours, où on le voit.
Des partenaires.
Il y avait une personne de Cour internationale la semaine dernière qui nous disait qu'il commençait un peu à énerver aussi.
Il va énerver. Deux, il va falloir après commencer à délivrer. On voit bien que sur le dossier syrien, c'est compliqué. Sur le PKK et les Kurdes, c'est compliqué. Attention, Recep Tayyip Erdogan est en train aussi de prendre un rôle extrêmement important en Europe, même s'il n'est pas en Europe.
Il a un rôle essentiel, notamment par rapport à lui.
Un rôle essentiel. Et puis évidemment, Vladimir Poutine, qu'on n'a pas encore cité, le gaz russe, ça y est, Nord Stream 2 qui va passer par l'Allemagne, l'avenir du gaz européen, il passera par le gaz russe. Donc, ce que va faire Emmanuel Macron, à part des postures et des choses, et continuer sur les grands cadres, les grands chantiers cadres de l'Union européenne, et ça c'est facile. En gros, c'est une politique facile. C'est-à-dire les 3%, continuer à dire à Angela, écoute, t'es un peu fatigué, on va remettre la deuxième en France et puis on passera à la troisième en Allemagne, si jamais ça va bien. Un choc quand même, qui n'a jamais été résolu, qui est un scandale, c'est la crise des migrants.
Ouais,
L'Europe n'a rien fait. J'ai pas entendu de grands discours d'Emmanuel Macron sur ce sujet. Il a, à une époque, à la Sorbonne, fait ce discours en disant on va faire des trucs, on va mettre des centres de traitement de l'autre côté de la Méditerranée. C'est impossible à faire en Libye où il n'y a plus d'État. Donc, si l'Europe doit être à la hauteur des grands enjeux, c'est d'abord résoudre ce problème, si il est résoluble, et ensuite
il n'est pas soluble.
Il va falloir le dire, il va falloir expliquer ça, et puis il va falloir.
Maintenant, on a l'alternative für Deutschland, c'est-à-dire les
exactement,
exactement. En Allemagne, qui n'était rien, et qui ont 20%.
Une chose, c'est pas tant les migrants qui font que l'AFD marche aussi. C'est les laissés pour compte de la croissance. C'est les jobs non qualifiés sous-payés. C'est les gens qui voient bien que ça ne marche pas pour eux. Vous voyez bien que le populisme européen.
Non,
les migrants n'ont rien à voir avec ça.
On a vu en Italie aussi que c'était un mélange des deux. C'était pas que les migrants. Voilà, par exemple. Mais juste une chose, pour revenir sur le cas concret d'Emmanuel Macron, il prend ses élections comment, lui? C'est-à-dire, il les prend au niveau de l'Europe, où il sait qu'à un moment, il va devoir affronter aussi tous les problèmes français, tout simplement, et c'est les premières élections sur lesquelles il va être jugé.
Non, mais pour Emmanuel Macron, c'est les élections de mi-mandat qui elles sont extrêmement importantes pour lui. Il a mis l'Europe au cœur de son
identité. Vous pensez qu'on va parler de l'Europe, vraiment? Ou ça va être sur le pouvoir d'achat?
Sur la SNCF. Et pourquoi? C'est qu'il y a une vraie bataille culturelle à gagner pour un camp comme pour l'autre. Il y a un sondage qui est sorti hier, qui est très intéressant. Une majorité des Français veulent rester dans l'Union européenne fermement, mais une majorité des Français n'attend rien de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il y a une euro-morosité. Ils nous disent oui, on veut rester parce qu'on n'a pas le choix, mais de toute façon, ça va aller de pire en pire. Ouais. Donc, un homme politique qui va présenter un programme dans lequel les Français vont croire, d'un côté comme dans l'autre, c'est-à-dire très fédéraliste ou très souverainiste, il va emporter la mise.
Oui, Anne-Sophie Beauvais, vous pensez aussi finalement que ces questions européennes vont être prégnantes? On avait vu l'Europe s'inviter d'ailleurs pour un présidentiel, on ne pensait pas du tout que ce serait un sujet important. On avait vu qu'il y avait des différences entre par exemple Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, que c'est un sujet qui va finalement s'imposer parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'abstention souvent aux élections européennes et que pour les Français ça semble très loin, pas du tout quelque chose de concret.
Oui, mais la question des migrants, je pense, a changé beaucoup de choses sur la vision que peuvent avoir les Français sur l'Europe. Et ils attendent beaucoup de l'Europe, une Europe qui protège. Et moi, quand j'entends que il y a pas de solution finalement à ce que les États aient un contrôle de leurs frontières, ou du moins un contrôle qui se voit, et qui se voit parce qu'il y a des marqueurs européens qui sont là pour le montrer, moi, j'ai du mal à entendre ce discours-là. Enfin, dans ce cas-là, laissons tout tomber, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut que l'Europe, à un moment donné, montre qu'il y a une puissance politique, publique, capable d'agir et de protéger. Je pense que l'enjeu, il est là.
On aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler. Dans un instant, l'info à 20h50, Noémie Bonin.
Le patron de Facebook annonce ce soir une série de mesures destinées à encadrer les publicités politiques sur le réseau social. Mark Zuckerberg poste un message et explique que les publicitaires devront désormais confirmer leur identité et dévoiler la source du financement de leur campagne s'ils veulent diffuser des messages politiques. Il n'y a pas eu de négociation, regrette la CGT Cheminot à la sortie de la réunion au ministère des Transports cet après-midi sur la réforme de la SNCF. Ce qui vient de se passer est absolument inacceptable, déclare de son côté Sudrail. Le syndicat veut durcir le mouvement. 11 juillet, la date est cochée pour Jean-Vincent Placé. L'ancien sénateur écologiste va être jugé pour violence, injures à caractère racial et outrage à agent. Après sa nuit mouvementée mercredi soir, il a passé deux nuits en garde à vue. La France rend hommage à plusieurs personnalités disparues aujourd'hui. Jacques Higelin, bien sûr. Véronique Colucci, également, l'ancienne compagne de Coluche et qui a apporté les Restos du Cœur pendant des années. Et puis l'humoriste Patrick Fonte, enfin à 77 ans. On retient notamment le duo qu'il a formé avec Philippe Val entre 70 et 95. Chroniqueur pour Charlie Hebdo et pour l'émission Rien à cirer sur France Inter. Il a ensuite passé 4 ans en prison pour attouchement sur mineur.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, on va finir pour vous laisser en week-end sur un sujet parano. Voilà, ça va être bien marrant en tout cas ce week-end, puisque peut-être vous avez été aspiré. Voilà, alors rien ne grivoie ça, hein, bien sûr, ne vous inquiétez pas, l'intégrité morale du service public radiophonique est sauve. On va parler du scandale Facebook dont on évoquait à l'instant Cambridge Analytica, un partage de données sans mettre au courant les utilisateurs qui concernerait aujourd'hui 87 millions d'utilisateurs du réseau social, principalement aux États-Unis, 210 000 en France et 2 millions en Europe. Alors depuis la fin du mois de mars, Facebook est dans la tourmente après avoir permis à une application baptisée This is Your Digital Life de proposer un questionnaire qui en fait servait à aspirer les données personnelles des utilisateurs ainsi que celles de leurs amis. Cambridge Analytica appartient à un proche de Donald Trump et des données auraient pu jouer un rôle dans la campagne. Depuis ces révélations, Mark Zuckerberg, créateur et patron de Facebook, ne s'en sort pas. Il témoignera d'ailleurs devant le Congrès américain les 10 et 11 avril et depuis, il ne cesse de faire des mea culpa, Mark Zuckerberg.
La confiance a été rompue et je suis désolé que ce soit arrivé. Nous avons la responsabilité de protéger les données des gens et si nous ne pouvons pas le faire, alors nous ne méritons pas de les servir. Désormais, quand nous identifierons une appli qui fait des choses douteuses, nous le dirons aux gens. Avec le recul, je regrette vraiment que nous ne l'ayons pas fait à l'époque. Nous avons eu tort et nous nous engageons à faire mieux à l'avenir.
Voilà, et en effet, faire mieux, comme Mark Zuckerberg, on l'a appris donc ce soir, c'est demander d'où vient notamment l'argent des campagnes publicitaires qui souhaitent faire de la publicité sur Facebook. Anne-Sophie Beauvais.
Oui, moi, si je peux me permettre, je voulais faire un peu la transition avec le thème précédent. On parlait effectivement de l'Europe. Il y a un règlement qui va arriver le 25 mai prochain, un règlement européen qui va essayer d'encadrer la diffusion, des données personnelles. Et pour une fois, on dit souvent que la réglementation européenne ne sert à rien ou entrave. Pour une fois, ça va être l'Europe. Non, mais ça vaut le coup de le
bien
dire
sûr,
quand même.
Bien sûr.
Ça va être l'Europe qui fixe les standards mondiaux de protection des données personnelles et ça va être des grands géants, des grands acteurs globaux comme Facebook qui vont être obligés d'en tenir compte. Et d'ailleurs, c'est une grande chance pour Facebook, si je peux me permettre de terminer là-dessus, parce que le 25 mai, un problème comme celui-ci, Facebook aurait dû, les sanctions qui sont envisagées, c'est 4% d'un chiffre d'affaires mondial, ce qui n'est pas rien. Facebook va échapper à ça, puisque ça aura tout ce qui s'est passé a lieu avant le 25 mai. Mais voilà, pour une fois, c'est l'Europe qui va un peu dicter à ces grands acteurs mondiaux les choses.
Je rappelle juste quelques chiffres. En effet, Facebook, c'est 2 milliards d'utilisateurs et c'est surtout 28 milliards de chiffres d'affaires, hein. Ça paraît assez étonnant. Anne-Elisabeth Moutet, en fait, la question qu'on peut se poser aussi, bien sûr, il y a ce scandale Facebook en France, c'est bien sûr très très important, c'est près de 10 millions de personnes. Est-ce qu'on fait trop confiance finalement à Internet aussi? C'est-à-dire qu'on se lance, on a l'impression que d'un coup on peut faire n'importe quoi, tout est oublié immédiatement.
Les gens qui font trop confiance à Internet sont des gens qui ne savent pas ce qui se passe sur Internet en réalité, parce que vous êtes sur Facebook et brusquement on vous donne un test, quel personnage de Star Wars êtes-vous? Et à ce moment-là, ça vous dit un petit truc. truc vous dit est-ce que vous acceptez que l'application ait accès à votre carnet d'adresses, à tout ça. Puis on clique parce qu'on veut savoir si on est
Han Solo ou
bien la princesse Leia. Mais il y a tout ça. Cela dit, ce qu'on reproche à Cambridge Analytica, c'est d'avoir croisé des bases de données, une chose qui n'existe, qui est interdite d'ailleurs en France en plus, et qui n'est pas utilisée dans les campagnes électorales. Mais si on pense à la première campagne électorale de David Cameron en Angleterre en 2010, je crois, en 2010. Il y avait toutes sortes de données qui n'étaient pas encore siphonnées sur Facebook, mais par exemple, vous preniez un département, un endroit où on pouvait, on croisait le nombre de gens qui achetaient un certain type de voiture avec le nombre de gens qui n'arrivaient pas à payer l'hypothèque sur leur maison, et on décidait que c'était ce qu'on appelle un siège marginal, c'est-à-dire un endroit où on pouvait faire basculer le département, la circonscription, et on envoyait plus de gens à partir de là. C'est-à-dire que l'analyse des données en politique aux États-Unis et en Angleterre, où c'est pas interdit de croiser les bases de données, ça existe depuis longtemps. C'est pas nouveau.
Etienne Gérard, on voit quand même le lanceur d'alerte donc du New York Times et d'Observer dit que cette firme britannique d'analyse de données de communication stratégique aurait également joué un rôle crucial dans le Brexit. Enfin, on voit qu'on est là à l'aube d'un scandale quand même énorme pour Facebook. Inquiétant pour Facebook.
Ça, c'est extrêmement préoccupant. Vous savez que le Brexit s'est joué à 2%.
Bien sûr.
Donc c'est inquantifiable. On pourra jamais le quantifier. On pourra jamais dire c'est Cambridge Analytica qui a fait basculer le scrutin. Mais il y aura toujours un soupçon qui va peser sur l'impact de cette firme dans la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. On est face à un problème colossal.
Alexis Poulain.
Mais il y a une enquête en cours et vrai que c'était une boîte en plus cachée dans la Colombie, en Colombie-Britannique. Non, ce qui est plus grave, c'est une petite face cachée de l'iceberg. Ces boîtes-là, que ce soit Google, en 2017, on n'en a pas parlé, mais Google a siphonné 1,6 million de profils du NHS pour faire des bases de santé avec une petite application sur la santé, et c'était tout à fait légal. Et on est en train de pousser l'open gouvernement, l'open data, pour que ces boîtes-là en profitent davantage, passent davantage de moissons.
Donc il faut faire attention.
Il faut faire extrêmement attention et rajouter que la DGSI, quand même, le service de renseignement, a passé un contrat avec Palantir, qui est la boîte fondée par la CIA en 2016. C'est quand même incroyable. On n'est pas équipé en Europe.
Allez, ça doit se terminer. Ça doit se terminer. Les informés de France Info, merci beaucoup, Anne-Elisabeth Moutet, d'être passée. Merci, Alexis Poulain. Merci, Anne-Sophie Beauvais. Votre livre, On s'était dit rendez-vous dans 20 ans chez Plomb. Merci. Et la une de Marianne, justement.
Big Brother est déjà chez vous. Prolonger le débat de ce soir.
Exactement, bien joué. Voilà, mais tiens. Allez, il est temps pour nous retrouver Jean-François Killy. Bonsoir, Jean-François.
Bonsoir, Jean-Mathieu. On parle pas de Big Brother ce soir. On va parler de la grève suite à la SNCF, du dialogue social et de l'état de la gauche dans ce pays avec Jean-Christophe Cambadélis, que tout le monde connaît, avec Gilles Lejeune de La République En Marche et Jérémy Pelletier de la Fondation Jean Jaurès.
Tout est politique. C'est dans quelques minutes sur France Info.